France Culture.
13 ans après l'arrêt des hauts fourneaux de Florange, le débat sur la nationalisation d'ArcelorMittal refait surface. Récemment, des syndicats et des responsables politiques, notamment de la gauche, ont appelé à une intervention de l'État pour prendre le contrôle de l'entreprise. Pour faire face à l'annonce du groupe de supprimer plus de 600 postes en France et de transférer des activités vers l'Inde portant sur 1400 postes. Mais pour le gouvernement, la nationalisation n'est pas une option. Alors simplement, faut-il nationaliser ArcelorMittal? Quelles conséquences sur l'emploi, l'investissement, sur l'entreprise même et au-delà, comment protéger, redynamiser le secteur de l'acier? Pour en débattre, deux invités ce soir, Tristan Auvray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord, co-auteur de L'industrie de la finance, paru aux éditions La Découverte dans la collection Repères, ainsi que de L'entreprise liquidée, la finance contre l'investissement, qui a paru aux éditions Michelon. Face à vous, Bruno Grandjean, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur président de Redex, groupe qui fournit des équipements industriels en Europe, en Asie et en Amérique. Vous êtes par ailleurs l'ancien président de la Fédération des industries mécaniques. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
L'annonce sonne comme un coup de massue.
Ils veulent tuer l'usine. Ils veulent, en fin de compte, ils sont en train de signer l'arrêt de mort de nos usines.
On est en train de laisser crever cette industrie. C'est pas juste des emplois et des vies qui sont brisées socialement. C'est une partie du patrimoine industriel qui disparaît.
Mais Dunkerque, alors qu'on est en sous-effectif partout, 177, les chiffres sont complètement incohérents.
La France est en train d'accélérer sa désertification industrielle.
C'est un vrai coup de massue qui a été mis sur les salariés. Certains sont très tristes, pleurent face aux annonces.
Tout le monde dit que la puissance publique ne peut pas rester les bras ballants devant un tel carnage.
Si la direction n'investit pas dans un process d'avenir, c'est la fermeture pure et dure du site qui est annoncé à l'aube de 3 ans.
Et il propose de faire un nouveau chèque à ArcelorMittal de 850 millions d'euros. C'est lunaire, il faut plus de contrôle.
Nous demandons la nationalisation d'Arcelor.
On va entrer, Bruno Grandjean, dans ce que peut revêtir une potentielle nationalisation. Mais d'abord, sur la philosophie, sur l'esprit, est-ce que vous êtes vous-même pour nationaliser ArcelorMittal en France ou certains de ses sites?
Non, je pense que c'est absolument pas approprié pour plusieurs raisons. Déjà, ArcelorMittal n'est pas aujourd'hui en train de fermer les hauts fourneaux. ArcelorMittal envoie un signal, je dirais, sur le fait que la société est sous contrainte aujourd'hui avec quatre problèmes principaux. Une faiblesse très forte de la demande en Europe, de l'ordre de moins 20%, que ce soit de l'emballage, de l'automobile, du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose de sans doute conjoncturel, mais c'est tout de même un élément très, très contraignant pour Arcelor. Le coût de l'énergie, ça, c'est quelque chose de plus structurel, car on a l'impression de ne pas revenir à la situation d'avant le Covid. Gaz, électricité, en Europe, on ne peut plus produire toutes ces industries primaires. L'aluminium subit la même situation, se délocalise. Ensuite, un effet de dumping chinois qui est important. Et puis, des incertitudes politiques sur la politique climatique.
Dumping,
qu'on
veut juste préciser de quoi il s'agit. Un dumping, c'est en gros déverser une masse importante d'acier à bas prix.
Voilà, la Chine, il faut le savoir, c'est plus de 50% de la production mondiale d'acier. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé en Chine ces dernières années. Et aujourd'hui, le marché américain se fermant, les débouchés en Chine n'étant pas infinis, les industriels chinois raisonnent en coût marginal. Ils se disent, même si je ne vends qu'un euro la tonne, évidemment ce sera un peu plus, il faut mieux le vendre en Europe que de garder mon acier. Donc tout ça crée une situation très difficile pour Arcelor, mais aussi pour ses compétiteurs, pour ses confrères. ThyssenKrupp a les mêmes problèmes, donc c'est quelque chose de structurel, de plus vaste qu'un simple problème ponctuel.
Très difficile pour ArcelorMittal, pour ses concurrents également, on l'a bien compris. La nationalisation, en l'occurrence, ça ne changerait rien pour vous à la situation?
Ah non, ça ne changera rien, puisque ces quatre facteurs sont pour toutes les entreprises, et cela n'aurait aucun effet de nationaliser. Il y aurait toujours ces mêmes contraintes économiques.
Tristan Auvray, votre point de vue aussi sur l'esprit d'une nationalisation potentielle?
Alors, il est vrai que tous les déterminants externes qui viennent d'être exposés s'imposeraient à n'importe quelle entreprise qui serait nationalisée, notamment la faiblesse de la demande mondiale et les problèmes de débouchés actuels. Néanmoins, dans le cas d'ArcelorMittal, il y a de réels problèmes internes qui sont liés à l'actionnaire principal. Et ce sont ces raisons qui poussent à des arguments en faveur de la nationalisation. Et ces déterminants internes, ils sont de deux ordres. C'est tout d'abord un manque d'investissement récurrent sur les sites de production d'ArcelorMittal France et d'ArcelorMittal Méditerranée également, couplé à une stratégie d'optimisation fiscale agressive, de délocalisation des profits au Luxembourg, notamment pour qu'ils soient moins taxés. Et donc forcément, à partir du moment où vous délocalisez les profits au Luxembourg, les sites français apparaissent peu rentables, ce qui permet de justifier des plans de licenciement.
Sur votre premier point, comment est-ce que vous comprenez qu'une entreprise comme celle-ci, ArcelorMittal en l'occurrence, investit si peu alors qu'elle distribue des dividendes importants, 400 millions d'euros versés aux actionnaires l'an dernier?
Alors, c'est 400 millions l'an dernier et 10 milliards sur les 5 dernières années. C'est pas rien, 10 milliards sur les 5 dernières années. Et alors, pourquoi un groupe investit si peu? En fait, il investit si peu en Europe. Et si vous regardez ce qui se passe en Inde et en Brésil, c'est là où se font les investissements. Et en fait, depuis 2020, la stratégie d'ArcelorMittal, elle est claire. C'est désindustrialiser les sites européens, nord-américains également, pour privilégier la production d'acier brut au Brésil, en Inde, pour ensuite la réimporter en Europe. Et là, il y a aujourd'hui un enjeu de souveraineté nationale et européenne, de nécessité de conserver des sites de production en France et en Europe, au-delà du maintien de l'emploi.
Qu'est-ce que vous répondez, Bruno Grandjean, sur ce point précis, justement? On explique beaucoup qu'ArcelorMittal a pour projet, à 5 ans, dans le fond, de quitter la France, de quitter l'Europe, de s'installer durablement, notamment en Inde et au Brésil. Alors même que l'acier est pour notre pays un secteur absolument stratégique en matière de défense, en matière nombreuse aussi, je pense notamment au domaine ferroviaire.
Alors ArcelorMittal a tout de même une base de R&D notamment en France.
De recherche et développement.
Toute la recherche et développement du groupe est en France. Et je ne veux pas juger de la qualité des investissements ou de la quantité des investissements, mais je voudrais vous prendre un exemple. À Mardic, qui est un site tout près de Dunkerque, ArcelorMittal est en train de reconvertir le site pour faire des aciers électriques liés aux moteurs des voitures électriques. Et c'est un investissement très important. On parle de un petit peu moins d'un milliard, je crois. Et cet investissement, il est très lié à la transition climatique et à ce que l'on veut faire en termes de politique énergétique, de mobilité, d'automobile. Et
c'est là, le contrat passé avec l'État français. Hein.
Alors, il y a un contrat, certes, il y a des subventions, sans doute, mais il y a surtout un marché automobile du véhicule électrique qui ne se concrétise pas. Donc, ça, c'est une réalité qui n'est pas liée à Arcelor particulièrement. C'est aujourd'hui des incertitudes quant à cet développement de la filière véhicule électrique et face à ces réalités économiques, l'entreprise doit bien entendu s'adapter. Donc on ne peut pas dire qu'Arcelor n'ait pas voulu en tout cas investir en Europe, mais aujourd'hui l'équation est insoluble. Aujourd'hui, il y a des vraies difficultés. Et puis, il faudrait parler de taxe carbone, il faudrait parler de quota carbone également.
Mais sur l'argument de la souveraineté, justement, sur l'argument quand même, faut-il continuer de produire de l'acier en France?
Mais il faut sans doute continuer de produire de l'acier, mais pour produire de l'acier, il faut se mettre dans des conditions de compétitivité. Et ça, c'est incontournable. Ça arrivera de toute façon, que l'entreprise soit nationalisée ou pas. Cette équation économique, elle s'impose à tous. Et d'ailleurs, que ce soit en Angleterre ou en Italie, il y a des doutes sur la pérennité malgré ces volontés de nationalisation.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Marc Ferracci, le ministre délégué chargé de l'industrie. Il s'exprimait le 1er mai dernier sur BFM TV.
Bien sûr que je vais aller à Dunkerque. Je vais aller à Dunkerque quand on aura trouvé des solutions et je suis en train aujourd'hui, avec mes équipes, de les construire. Bien justement, quand on aura la capacité à annoncer des perspectives. Ce dont ont besoin les salariés d'Arcelor, c'est des perspectives sur le maintien de leurs emplois, sur le fait que les sites ne vont pas fermer. Et pour ça, il faut des annonces. Il faut que Arcelor concrétise ses projets d'investissement, en particulier dans la décarbonation. C'est ça ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Vous savez, pour obtenir ce genre d'annonces, il faut faire en sorte que les choses bougent, y compris au niveau européen. Et ça, ça ne se fait pas en 3 jours. Il faut que la Commission européenne prenne des mesures extrêmement fortes pour éviter les importations d'acier chinois qui aujourd'hui font qu'Arcelor a suspendu un certain nombre d'investissements. Si on arrive à lutter et faire en sorte que Arcelor lutte à armes égales, comme tous nos industriels, avec les Chinois, avec ceux qui pratiquent une concurrence déloyale en taxant, en limitant les importations, alors les investissements se feront, alors il y a un avenir pour la sidérurgie en France et en particulier à Dunkerque.
Tristan Auvray, au cœur du discours du ministre Marc Ferracci, il y a évidemment, logiquement, la question de l'emploi. Est-ce que là aussi, la perspective d'une nationalisation concrètement permettrait de préserver ces 600 emplois annoncés supprimés ?
C'est au minimum le but et c'est la première étape d'une nationalisation, en effet. Mais ce n'est que la première étape. Et la seconde, c'est l'investissement qui est nécessaire pour faire perdurer ces emplois. Et l'exemple que vous preniez sur le site de Mardic, justement, s'il est mis aujourd'hui en pause par ArcelorMittal, c'est soi-disant en raison d'un manque de perspective sur l'avenir. Mais ces manques de perspective, elles n'existent pas pour la sidérurgie en général dans le monde, puisque, en effet, ArcelorMittal continue d'augmenter sa production au Brésil, en Inde. Donc, finalement, il y a des besoins de production dans le monde et en Europe. 50% de la production d'ArcelorMittal est en Europe. 50% des débouchés d'ArcelorMittal sont en Europe. Donc, il y a des besoins en Europe sur la sidérurgie. Et précisément, cette compétitivité-là, il ne faut pas essayer de la chercher avec la Chine, l'Inde ou le Brésil. Il faut essayer de la chercher en Europe. Et la chercher en Europe, ça suppose, en plus d'une nationalisation, des mécanismes aux frontières, des mécanismes d'ajustement sur le carbone, une taxe carbone aux frontières, et aussi des quotas d'importation, par exemple.
Bon, mais entrons dans le dur, Tristan Auvray, quel type de nationalisation vous envisagez ? La nationalisation, ça veut dire beaucoup de choses, hein, entre la prise de participation minoritaire de l'État et la nationalisation complète d'ArcelorMittal.
Alors, la nationalisation complète d'ArcelorMittal, elle ne sert à rien. On ne va pas nationaliser des sites de production en Belgique, en Espagne, au Brésil ou ailleurs. Donc, quand on parle de nationalisation, c'est évidemment sur les sites français. Et il faut savoir aujourd'hui que la valeur totale d'ArcelorMittal, c'est 20 milliards d'euros à peu près, c'est en moyenne, sur les 5 dernières années. Et la partie française, on peut l'estimer à un peu moins d'un milliard d'euros. Donc, c'est pas grand-chose, en fin de compte. C'est pas grand-chose, cette partie-là. Et ce serait seulement celle-là qui serait à nationaliser. Alors, comment se passe une nationalisation ? C'est très simple, on l'a refait pour EDF il n'y a pas très longtemps, c'est un article de loi qui dit « La société ArcelorMittal France est nationalisée ». Et article 2, on estime le coût à payer aux actionnaires, qui, je vous l'ai dit, serait d'à peu près 1 milliard d'euros en réalité. Et c'est extrêmement...
Ce qui est un prix important. Hein.
Oui, c'est un prix important, mais quand vous le mettez en comparaison... aux dividendes versés par le groupe, aux subventions reçues par le groupe, qui sont d'à peu près 250-300 millions par an, c'est pas si énorme que ça, en fait. Et surtout, il faut le mettre en comparaison par rapport à l'ensemble des emplois qui seraient supprimés et qui coûteraient des indemnités chômage. Et là, on a fait une estimation là-dessus. Si on partait dans l'hypothèse que les 15 000 emplois d'Arcelor en France étaient supprimés, il y aurait un coût sur un an seulement d'1,2 milliard d'indemnités de chômage à devoir verser.
Votre appréciation, Bruno Grandjean, sur cette proposition et ses calculs ?
Deux remarques. La première, c'est qu'ArcelorMittal est un groupe très intégré. Donc, si on veut détacher la partie française du reste du groupe, ça risque de ne pas être une partie de plaisir parce qu'il y a une forte intégration des achats, des ventes, de l'informatique, des brevets, des technologies, des clients, etc., des différentes usines en Europe. Donc, déjà, il y a un problème de faisabilité industrielle. Et puis, la deuxième remarque, c'est qu'aucun État aujourd'hui n'aura la prétention de vouloir gérer une entreprise aussi complexe que ArcelorMittal, même la partie française. Donc finalement, ce serait uniquement un portage pour essayer de trouver un nouvel investisseur. Eh bien, que l'on me donne un investisseur plus impliqué en Europe que Mittal, que l'on me donne un investisseur qui, lui, pourrait résoudre cette équation dont je parlais à quatre inconnus, qui semble insoluble aujourd'hui pour ThyssenKrupp, pour les autres groupes européens. Et donc, c'est à l'Europe de mettre en place un écosystème favorable à la sidérurgie. La nationalisation peut être un outil éventuel, mais au service d'une vision, d'un projet.
Je vais vous interroger sur le premier point. Je laisserai Tristan Auvray réagir sur la question de l'investissement qu'il a déjà abordé, sur la faisabilité industrielle que vous mentionnez. On pourrait vous opposer, Bruno Grandjean, le cas italien. Hein. En Italie, le gouvernement a annoncé à l'automne dernier mettre sous tutelle l'usine de Tarente, propriété d'ArcelorMittal. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas une nationalisation. C'est l'État qui se charge désormais de la gestion d'un site en particulier d'ArcelorMittal. Est-ce que ça, c'est une forme, j'allais dire, d'intervention étatique qui peut vous convaincre ?
Non, elle ne me convainc pas. D'ailleurs, l'État italien est en train d'essayer de se débarrasser de cette épine dans le pied en essayant de céder cette entreprise à un investisseur azerbaïdjanais. Donc, les Pouilles, où se trouve cette usine, et l'Azerbaïdjan, on va voir ce qui va en sortir, mais sans doute pas grand-chose. Donc, c'est une patate chaude italienne que les politiques se repassent. C'est un problème d'aménagement du territoire italien. Ces problèmes pratique de trouver des investisseurs capables de faire tourner ces systèmes complexes dans cet environnement européen contraint s'applique aussi aux Italiens et je ne pense pas qu'ils aient trouvé la parade à cette problématique.
Tristan Auvray.
Oui, alors sur ce cas italien, il remonte quand même à 2010 et c'est une histoire beaucoup plus longue que l'histoire récente que l'État voudrait reprendre un site sidérurgique. Et notamment pour des raisons de dépollution et de problèmes de santé pour les habitants de la région de Tarente et pour les salariés du groupe. Il y a eu beaucoup de problèmes et surtout l'errement de l'État dans son soutien à la dépollution du site. Donc là, on est en plein encore dans les enjeux environnementaux. Et vous venez de le dire en effet, le gouvernement de Giorgia Meloni est en train de se retirer parce qu'ils ne veulent pas s'engager, comme ArcelorMittal finalement, dans cet objectif de décarbonation, de dépollution des sites. Et donc, c'est pour ça que...
Pour vous, c'est d'abord un recul politique lié à la transition énergétique et écologique, bien plus que dans le fond, un échec de la nationalisation en tant que telle ?
Oui. Alors... Là, il faut. En fait, en Italie, c'est un groupe qui a été privatisé d'abord. C'est un groupe qui a été privatisé, qui a subi des déboires et que l'État a essayé dont l'État a essayé de sauver l'emploi par la suite, mais avec toujours ce coût de la dépollution à prendre en compte. Mais aucun actionnaire, même ArcelorMittal, n'a pas voulu le faire et engager la décarbonation du site. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la stratégie d'ArcelorMittal, c'est de racheter des sites en Europe et de les fermer. Ils l'ont fait sur la scierie de Grande-Range, les hauts fonds de Florange, ils l'ont fait à Fos-sur-Mer, ils le font à Dunkerque. Donc, aujourd'hui, c'est la stratégie de Mittal d'essayer de fermer des sites de production pour pouvoir réimporter de l'acier. Et c'est pour ça qu'on a besoin après de mécanismes européens pour protéger justement la sidérurgie européenne de cet acier fait dans des conditions environnementales et sociales beaucoup moins disantes que celles qui sont en Europe.
L'autre cas d'école, si je puis dire, Bruno Grandjean, nous vient du Royaume-Uni. Il y a quelques semaines, la Chambre des communes a voté à l'unanimité, c'est assez rare pour être souligné, la contrainte portée à une entreprise de sidérurgie chinoise de rester, de demeurer sur le territoire britannique. En échange, c'est désormais le gouvernement britannique qui paye la matière première, empêchant justement la fermeture des deux derniers hauts fourneaux, grands fourneaux du pays. Qu'est-ce que nous enseigne là aussi ce cas-là ? Est-ce que c'est, j'allais dire, un exemple à suivre ?
Pas plus. D'une part, la situation n'est pas comparable à la situation française. C'est bien pire en Angleterre. Hein, en France, on a encore trois hauts fourneaux qui fonctionnent.
Là, c'était les deux derniers. Après tout.
Là, ce sont les deux derniers. Et British Steel perd de l'argent. ArcelorMittal est une société rentable. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est un actionnaire chinois qui n'est pas capable d'assurer les fins de mois, donc l'État s'y substitue. Mais là également, il n'y a pas d'issue. Finalement, tout le monde est pour cette nationalisation, mais quel est le projet derrière ? Quel est le projet ? Ça va être de trouver un actionnaire venant de l'Europe centrale, de l'Extrême-Orient. Enfin, quel est le projet derrière British Steel ? Je crois qu'on se lance un petit peu. Enfin, les Anglais se lancent un petit peu sautent dans l'inconnu. Mais il n'y a pas de projet derrière. Et s'il n'y a pas de projet, eh bien tout ça se terminera très mal, sans doute comme sont passées beaucoup de nationalisations. C'est-à-dire que finalement, on ferme gentiment, en dédommageant et en essayant de sauver les meubles socialement, mais il n'y a pas de projet industriel derrière ce qui se passe chez British Steel. Donc c'est le fond du sujet.
Par ailleurs, on parle de nationalisation, mais là, en l'occurrence, ce n'en est absolument pas une, puisque c'est le propriétaire chinois qui reste absolument propriétaire de l'entreprise.
Oui, au moins, les Anglais voient bien le caractère, l'impossibilité qu'a un État à gérer ce genre d'entreprise. Donc ils conservent l'actionnaire. Ils ont quand même nommé, je crois, un directeur général par intérêt. Et puis ils assurent la trésorerie, on va dire, à travers les approvisionnements. Mais ils sont aussi là dans une situation, dans un cul-de-sac. Je pense qu'il n'y a pas de solution à travers cette quasi-nationalisation.
Tristan Auvray, qu'est-ce qu'il nous enseigne ce cas britannique, selon vous ?
Oui, alors déjà, il nous enseigne que après, pour le pays de Margaret Thatcher, c'est quand même la première fois qu'on a un État qui décide de faire ce revirement et de s'immiscer quand même dans des entreprises privées. Donc, trouve que ça montre un changement déjà dans l'histoire, notamment autour de la sidérurgie. Donc ça, c'est un premier point à souligner. Le deuxième, c'est que c'est en effet une forme de nationalisation qui n'en est pas une, puisque les Britanniques ont décidé de laisser l'actionnaire entièrement propriétaire du groupe. Et c'est peut-être là où je vois une aberration et un cas d'école pour la France. C'est parce que finalement, le gouvernement britannique va prendre en charge le coût des matières premières et le coût des salaires de ce site-là, mais ne va pas recevoir les bénéfices potentiels et les dividendes qui seront reversés aux actionnaires. C'est une aberration. On privatise les pertes et... Non, pardon. On privatise les bénéfices et on nationalise les pertes. Donc, c'est ça qui est en train de se
donc
passer.
Donc, l'État là-bas est 100% perdant.
Donc, l'État, ici, est perdant. Alors, il n'est pas perdant puisqu'il sauve l'emploi sur place, quand même, pour le moment. Donc, ça permet de limiter les indemnités chômage. Mais sinon, l'État pourrait aussi avoir son retour sur investissement en devenant actionnaire de la société.
L'autre point qui fait grandement débat dans l'échiquier politique français, Bruno Grandjean, c'est le montant des aides publiques reçues par ArcelorMittal, plusieurs centaines de millions d'euros de subventions et d'aides publiques sans contrepartie pour le moment. Est-ce que la conditionnalité des aides, c'est-à-dire continuer à donner des aides financières public à ArcelorMittal, désormais, doit être, comme indique son nom, être conditionnalisé à justement des résultats sur la transition énergétique, notamment, et sur l'emploi.
Alors, c'est un débat qui est apparu en 2012 avec le CICE, avec le rapport Gallois, qui est venu des frondeurs du Parti Socialiste, qui considèrent que dès qu'une mesure favorable à l'industrie est mise en place, elle doit se traduire par une intrusion dans la marge de l'entreprise. Moi, je pense que c'est une grave erreur d'analyse. D'ailleurs, le terme « aide » pourrait être revu différemment. On pourrait parler de subvention quand ce sont des subventions, et puis parler de soupape fiscale quand ce sont des dégrèvements de charges. Des crédits d'impôt ou des baisses de charges. Donc, déjà, la sémantique est un peu trompeuse. Et qu'un pays aide ses industriels, cela est normal. Tous les pays le font. Je voudrais citer l'IRA américaine, qui a déversé des milliards sur l'industrie américaine. On peut citer évidemment la Chine, où l'État, près de 25% des entreprises industrielles sont en perte, et c'est l'État chinois qui vient combler ou qui vient, qui vient faire les fins de mois. Donc l'État français aide ces industriels, c'est tout à fait normal. Après, effectivement, se pose le problème que des grandes entreprises n'ont plus de nationalité. Ces entreprises sont internationales. Elles n'ont plus véritablement d'ancrage dans un pays et peuvent...
Pourquoi ça pose problème, selon vous?
C'est un problème parce que, évidemment, elles ont la possibilité de déplacer leurs investissements relativement facilement, même si la base installée française reste quand même très forte, et ce ne serait pas une partie de plaisir. Mais on a en face de nous des entreprises qui n'ont plus vraiment de patrie, qui n'ont plus vraiment d'attache, même si, encore une fois, ArcelorMittal, l'actionnaire Mittal, je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est un actionnaire qui a misé sur l'Europe très longtemps, qui a ses centres de recherche en Europe, qui a son siège social au Luxembourg, où on y parle encore français, pour y être passé, je l'ai vu, ça reste... Quand on compare aux autres investisseurs de la sidérurgie, je ne pense pas que ce soit le pire de tous. Donc, parler d'aide, je trouve que c'est quand on sait la difficulté qu'il y a à maintenir de l'industrie en Europe, surtout dans la sidérurgie, ce terme d'aide me semble inapproprié.
Alors, sans parler d'aide, Tristan Auvray, est-ce qu'un soutien de l'État doit engendrer un droit de regard, au moins, sur certains pans de la politique industrielle d'une entreprise soutenue?
Oui, enfin, on connaît tous la situation budgétaire aujourd'hui de la France et de beaucoup de pays européens qui est exsangue. Et l'un des postes, quand même, qui est responsable aussi de ce déficit budgétaire, c'est quand même aussi les subventions massives aux entreprises depuis de nombreuses années. Et là-dessus, c'est pas un problème de subventionner les entreprises, mais c'est un problème peut-être de les subventionner de manière sans conditionnalité, de saupoudrer un petit peu partout et de ne pas cibler sans une véritable politique industrielle précise. Et je vous donne un exemple, donc dans le cas d'ArcelorMittal, sur les sites ArcelorMittal France et ArcelorMittal Méditerranée, donc en France, c'est surtout ArcelorMittal France qui a versé 460 millions d'euros de dividendes en 2023. Et en 2023, ils ont reçu 300 millions d'euros de subventions. Donc ça veut dire que c'est comme si on avait subventionné 65% des dividendes d'ArcelorMittal France.
On peut flécher comme ça, subvention, le soutien de l'État et les dividendes,
ce sont des flux qui rentrent, des flux qui sortent. Mm-hmm. Et au final, on peut comparer quand même ce montant de subvention par rapport aux dividendes qui ont été versés. Et on pourrait se dire que finalement, ces subventions, elles auraient peut-être pu servir à soutenir l'investissement du groupe plutôt que de, pour plus de la moitié, partir en dividende.
Bruno Grandjean, qu'est devenu Florange ?
Alors justement, c'est intéressant parce que Florange, tout comme Gandrange aussi, où était venu Nicolas Sarkozy, ce sont des sites qui sont au cœur du débat politique. Et en fait, Florange, il y a quelque chose que personne ne sait, c'est que le site, bien que Léo Fourneau est fermé, a une activité relativement proche de ce qu'elle était, parce qu'ils sont spécialisés dans le parachèvement, dans la finition des aciers, et non pas dans la partie chaude, dans la partie des hauts fourneaux. Et c'est un site très productif, c'est un site très compétitif, qui souffre, sur lequel ArcelorMittal a investi beaucoup, beaucoup de digitalisation, des équipements modernes, mais qui souffre de cette problématique énergétique et de faiblesse de la demande. Et donc, le site de Florange, finalement, c'est un site qui se porte relativement bien. Et on a du mal à comprendre cette hystérie politique qu'il y a eu autour de ce site, alors que on a certes fermé des hauts fourneaux, mais ils devaient fermer, parce que la sidérurgie, aujourd'hui, elle se fait sur l'eau, avec des accès plus faciles, comme on a à Fos-sur-Mer ou à Dunkerque, pour amener l'énergie, pour apporter les matériaux. Et donc, c'est un site qui fonctionne relativement bien et qui, lui aussi, n'est pas menacé de fermeture. On mélange la situation d'Ilva, la situation de British Steel avec celle d'ArcelorMittal. Ce n'est pas le même contexte.
Vous utiliseriez les mêmes termes, Tristan Auvray. Il y a eu une hystérie politique en 2012 autour de Florange. Elle était injustifiée?
Je pense pas qu'il y ait d'hystérie politique à partir du moment où on supprime des centaines ou des milliers d'emplois. C'est normal de se soucier de la pérennité de ces sites de production, puisque ces milliers d'emplois, comme on l'a dit tout à l'heure, ils génèrent d'autres emplois directs ou induits. Tout le monde s'accorde sur ces chiffres-là, que ce soit le MEDEF ou les statistiques publiques, c'est que pour un emploi dans la sidérurgie, il y a 3 emplois créés. Donc en effet, c'est pas une hystérie que de s'inquiéter de la destruction des emplois sur ces sites-là. Et supprimer des hauts fourneaux, en effet, bon, on va maintenir des sites à froid, mais de finition de l'acier, mais ça génère la suppression de toute une chaîne de valeur qui est quand même assez crucial et aussi stratégique pour l'Europe.
Vous n'avez pas l'air d'accord, Bruno Grandjean.
Non,
vous faites la moue.
De Florange, les décisions qui ont été prises sont des décisions industrielles, motivées, justifiées. Il n'y a pas eu de casse sociale, contrairement à ce qu'on dit. Le site est aujourd'hui, il emploie à peu près les mêmes effectifs qu'il employait lorsqu'il y avait des hauts fourneaux qui étaient là pour...
Les mêmes effectifs, c'est une chose, mais est-ce qu'il emploie les mêmes personnes? Est-ce que personnes qui ont été licenciées...
C'est même sans doute beaucoup plus technologique encore, le parachèvement, les opérations de finition, de galvanisation, d'étamage qui sont faits sur ce site sont encore plus technologiques que les hauts fourneaux ou... En tout cas, ce sont des technologies comparables. Donc là, il y a une forme d'hystérie, parce que les hauts fourneaux, évidemment, c'est une symbolique. C'est une symbolique de l'industrie. On voit ça comme une symbolique de puissance. Mais ils étaient voués à être fermés. Ils étaient là pour des raisons historiques de gisements de fer qui se trouvaient sur place. Et ils n'étaient plus économiquement rentables. Donc ce sont des adaptations qui sont indispensables. Et quand le politique cherche à s'opposer aux adaptations économiques, il ne fait que retarder et d'amplifier même le problème.
Je voudrais qu'on remonte le temps jusqu'en 1985 et que l'on s'arrête à Trie-Saint-Léger, près de Valenciennes. On va se rappeler la fermeture de l'usine Unimetal.
À la suite de la décision de fermeture de la série Unimetal de Trie-Saint-Léger, près de Valenciennes, des ouvriers aujourd'hui ont saccagé une partie des bureaux de la direction de l'entreprise. Au travers de cette affaire, on s'aperçoit une nouvelle fois que tous les plans de réduction de la production d'acier en France avaient été sous-estimés. Le dernier en date ne faisant pas exception à la règle. Gérard Morin.
Cette aciérie en construction à Trie-Saint-Léger occupera 120 personnes. Mais si on ferme les autres installations existantes au même endroit, on supprimera 770 emplois. Depuis 10 ans en France, le nombre des sidérurgistes a été divisé par 2. Chaque année, les aciéries réduisent leur production et ferment des installations en espérant ainsi faire moins de déficit. Les décisions de production sont prises au niveau européen car l'état de crise a été déclaré partout. À Tri-Saint-Léger, à Pompey et ici aux Dunes dans le Nord, on ne comprend pas pourquoi ces plans successifs sont aussi douloureux et pourquoi ils n'aboutissent pas pour autant.
C'était il y a 40 ans exactement, on a l'impression que c'est exactement la même histoire qui se dessine que celle d'aujourd'hui, Tristan Auvray. Est-ce que dans le fond, cette crise de l'acier, elle est endémique à tel point qu'elle risque encore de se poursuivre durant des décennies, au-delà même du cas d'ArcelorMittal ?
Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'en fait, ce qu'il y a depuis les années 50, c'est qu'il y a une baisse constante de la rentabilité du secteur. Mais dans ce secteur-là, comme dans beaucoup d'autres, en fait. Et ces tensions resurgissent périodiquement. Alors, surtout dans la sidérurgie française, qui a connu ces périodes de nationalisation, avant la vague de nationalisation de 81, d'ailleurs, puis de privatisation, et puis on évoque aujourd'hui encore des nationalisations. Donc, C'est vraiment important de souligner que ces nationalisations, elles se feront dans un contexte où la rentabilité sera pas forcément la plus forte, mais un site a besoin d'être rentable pour réaliser ses investissements. Il n'a pas forcément besoin de dégager une rentabilité extrême pour assurer une distribution aux actionnaires. Donc il faut avoir une rentabilité minimale, c'est certain, qui permet d'assurer les investissements sur place. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la sidérurgie dans la perspective de sa décarbonation.
Quelques chiffres absolument effarants. Les surcapacités mondiales d'acier représentent entre 550 et 600 millions de tonnes par an. C'est 4 à 5 fois la production européenne. Bruno Grandjean, quand on lit ça, quand on découvre ça, honnêtement, on se dit qu'est-ce que l'Europe peut faire ?
Il y a un vrai problème, notamment chinois. La Chine qui pèse 55% des productions mondiales d'acier. D'ailleurs, l'acier se transporte relativement bien. Ça a beau être lourd, ça se transporte très bien. Ça sert même parfois de lest à des bateaux. Et donc, les surcapacités chinoises créent des déséquilibres mondiaux qu'il faut traiter. Il faut traiter avec la Chine ces déséquilibres, sinon on tuera.
Mais comment ça se traite concrètement ? On a du mal à imaginer que l'Europe puisse peser dans ces négociations.
Complexe. C'est un sujet complexe parce que l'Europe est une puissance marchande. Donc, elle n'a pas vocation à faire du protectionnisme. Mais là, il faut essayer de traiter le sujet. Il y a des quotas. Également, tenir compte de la qualité des aciers qui sont faits, enfin, ou tout du moins de leur empreinte carbone. C'est un vrai sujet qu'il faut pouvoir traiter, qui a été maltraité à travers les quotas carbone et les mécanismes d'ajustement aux frontières. Donc, il faut régler ce déséquilibre mondial qui touche aussi les États-Unis, qui touche le Japon, qui touche tous les pays qui sont envahis de produits chinois, même si la théorie libérale pourrait faire dire que finalement ça peut bénéficier aux filières en aval. C'est-à-dire que de l'acier vendu à perte par les Chinois permet de faire des voitures moins chères, permet de faire des choses moins chères en Europe, parce que permet que votre téléphone ou que votre voiture coûte un peu moins cher, parce que c'est fait avec de l'acier qui est vendu à perte.
Donc, si tout cela a été construit en Europe.
On pourrait en profiter. On pourrait aussi avoir cette stratégie-là, de profiter de cette subvention chinoise qui pourrait être faite à l'industrie européenne, aval de l'acier.
Face à ça, Tristan Auvray, j'allais dire, face à ces transformations de fond, structurelles cette fois-ci, quel est le rôle, selon vous, de ce qu'on appelle souvent, régulièrement, l'État stratège ? L'État français a-t-il même une stratégie en la matière ?
Alors, l'État stratège peut
ça
en effet.
Ça me laisse perplexe, comme
question. Oui, non, ça me laisse pas perplexe en fait. C'est que il y a deux niveaux de réponse à votre question. C'est que la première, c'est qu'un État stratège est nécessaire, notamment dans cette perspective de décarbonation. Le problème de l'État français, c'est qu'il ne s'est pas comporté comme un État stratège, mais comme un État, comme un actionnaire financier finalement. Quand on regarde comment se comporte l'État français dans les entreprises nationalisées, ça va pas pour le mieux parce que il y a aussi une demande de dividendes, comme pourrait l'être un actionnaire financier. Là où parfois il y a besoin d'un soutien sur l'investissement.
Vous voulez dire que c'est le court terme qui prime largement ?
C'est souvent le court terme qui prime aujourd'hui dans la conception de l'État actionnaire, oui. Mais il faut essayer de dépasser cette vision avec non seulement au niveau français, mais aussi au niveau européen. Donc, vous avez cité tout à l'heure les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Il y a aussi différentes mesures de sauvegarde européennes qui ont été prises pour l'acier. Et en fait, il faut aller dans ce sens-là et les renforcer. Mais pas seulement mettre un mécanisme de taxation du carbone, mais aussi un mécanisme de protection vis-à-vis des faibles salaires ou du moins disant fiscal qui peut être fait dans d'autres pays.
Bruno Grandjean, sur la question de l'acier, sur la question industrielle d'ailleurs plus largement, c'est quoi un État stratège efficace ? C'est un État qui limite son intervention et qui d'abord et avant tout régule et soutient ?
L'état stratège, ce serait déjà de mettre l'industrie française dans des conditions de compétitivité. Pour avoir été du débat, du combat sur les taxes de production, je sais que c'est très difficile. Aujourd'hui, la France n'est pas une base de production compétitive. Avec la hausse de l'énergie, c'est devenu très compliqué. Toute l'industrie, on aurait pu en parler également de l'aluminium, toute la première transformation de l'aluminium a quitté la France, a quitté l'Europe. La chimie est en grande difficulté également. Donc un État stratège serait un État qui mettrait en place un écosystème favorable à l'industrie, énergie, formation, fiscalité, recherche, développement. D'ailleurs, je pense que vous ferez une émission sur le sujet un de ces jours, mais l'État s'est lancé dans la filière batterie, par exemple. Dans la filière batterie, je pense qu'on apprendra bientôt que tout ça se termine très mal. Donc l'État stratège, je pense que c'est un peu prétentieux, entre guillemets. Et juste une dernière anecdote, moi, jeune ingénieur, j'ai connu Machine Française Lourdes, qui était une création de l'État français pour relancer la filière machine-outil. Ça s'est très très mal terminé. L'État n'a pas vocation à diriger des entreprises industrielles, il en est incapable.
Je reviens quand même, Tristan Auvray, sur cette idée, ce projet de nationalisation. Un État à la tête de quelques sites d'ArcelorMittal en France ferait mieux, en l'occurrence, selon vous, encore une fois, que l'entreprise privée ?
Alors, tout dépend de la manière dont se comporte l'État, en effet. Si il s'engage à continuer les investissements sur le site et à faire les investissements qu'ont refusé ArcelorMittal, déjà, c'est un premier pas. Ensuite, je pense que dans le cas de l'acier, il faut pas s'arrêter à la France. On a la chance de pouvoir bénéficier de l'Europe. Et au début, Arcelor, c'est quoi ? C'est quand même le rapprochement de groupes espagnols, belges, luxembourgeois et français. Et il faut, en fait, essayer de reconstruire un champion de l'acier européen à ce niveau-ci et non plus rester sur une base nationale. Mais le fait de faire une nationalisation sur les sites français, ça peut faire des émules, notamment en Belgique et même en Allemagne. Aujourd'hui, les syndicalistes d'IG Metall, qui est un syndicat très puissant en Allemagne et qui sont plutôt d'habitude dans le soutien de l'actionnaire, aujourd'hui commencent à avoir des positions qui se retournent plus vers celles de la nationalisation également, en raison justement des comportements que peut avoir ArcelorMittal en Allemagne également.
Vous souhaitiez réagir, Bruno Grandjean, sur cette notion de champion européen de l'acier?
Non, le champion européen, il existe. Dans les 10 premiers producteurs mondiaux d'acier, il n'y en a qu'un qui soit européen, c'est ArcelorMittal. Je l'appelle toujours un peu Arcelor. D'ailleurs, c'est intéressant que le nom Arcelor soit resté le premier des deux noms à coller.
Vous disiez plutôt qu'il était de nulle part, que cette entreprise n'avait pas de racines.
Il est de nulle part, mais justement, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une conversation porte fermée avec Monsieur Mittal en lui disant « Nous voulons que vous restiez en Europe. Trouvons un moyen de rendre compétitive cette industrie. Trouvez les moyens d'être un peu moins exigeant sur les dividendes et avançons ensemble sur... C'est la seule société qui figure dans le top 10 des producteurs sidérurgiques mondiaux où se trouvent essentiellement des Chinois, quelques Coréens, un Américain et un Japonais. Donc, on a déjà cette structure et donc je pense... Et ArcelorMittal gagne de l'argent. ArcelorMittal a une base européenne. Il est également en Allemagne. Il est présent en Allemagne. On peut construire quelque chose avec cette société et la nationalisation ne doit pas être un moyen. Pour moi, elle conduirait à une catastrophe industrielle.
Mais pour vous, Bruno Grandjean, il n'y a pas de projet caché d'ArcelorMittal de quitter l'Europe, donc.
Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, mais je me mets à la place des dirigeants.
C'est une question importante quand même.
Vous savez, quand l'équation économique n'est plus solvable, quand vous n'avez plus de possibilité d'être rentable, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez là où vous pouvez gagner de l'argent. Et c'est tout à fait compréhensible et normal. Et donc, à l'Europe de régler ses problèmes énergétiques, ses problèmes de normes, ses problèmes d'ouverture aux quatre vents par rapport aux aciers chinois pour recréer un environnement compétitif.
Tristan Auvray, réaction courte et conclusion.
Oui, il me semble qu'essayer de parler avec Monsieur Mittal pour qu'il conserve les sites de production en Europe est vain. Dans les années 2010, on aurait encore pu le croire possible, puisque les niveaux de production des différents sites d'ArcelorMittal dans le monde évoluaient de manière similaire. Mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on voit très clairement... Il suffit de regarder les rapports annuels de ce groupe pour voir la baisse de production annoncée en Europe, mais depuis 2019-2020, en fait. C'est bien avant le problème actuel de surcapacité mondiale.
Merci à tous les deux de ce débat constructif. Tristan Auvray, économiste, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord. Bruno Grandjean, ingénieur, président de Redex, groupe qui fournit des équipements industriels en Europe, en Asie et en Amérique. Merci à tous les deux.
Merci.